Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Coralie, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Je me permets de te tutoyer parce qu'on est quand même pas trop éloigné en termes d'âge. Tu es la reine du growth. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais en tant que fondatrice de l'agence, fondatrice et dirigeante de SPAG, je te demande, si ça ne te dérange pas Coralie, dans un premier temps, de te présenter. Et puis après, on parlera un petit peu de ton parcours. Voilà.
Ça marche, merci Estelle. Donc moi, je suis Coralie, j'ai 33 ans. Je suis effectivement la fondatrice de SPAG, qui est un cabinet de growth marketing. Je pense qu'on reviendra un peu sur le terme après.
Exactement.
Parce que, c'est pas toujours évident d'expliquer. Et j'ai aussi créé en parallèle un jeu de société qui s'appelle Mimetics, qui me plaît bien parce que c'est des sujets, tout ce qui est autour de l'éducation, du jeu et du français, globalement, sont des sujets qui me passionnent. Ouais. Donc voilà.
Alors, comment t'en es venue à ça ? C'est-à-dire, d'où tu viens, quel est ton parcours ? Parce qu'à 33 ans, je pense que SPAG, tu l'as créé il y a combien de temps à peu près ?
Officiellement, il y a 3 ans, mais le projet a commencé il y a 5 ans.
C'est ça. Donc, ouais. C'est quand même relativement jeune pour monter une boîte, mais ouais. T'as fait quoi avant ?
Et puis en plus, surtout, c'est arrivé assez naturellement. Enfin, c'est vraiment un enchaînement d'opportunités, puisque j'avais pas vraiment pour ambition de monter ma boîte toute seule. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis petite. Enfin, si je suis quand même plutôt leader, voilà, j'aime bien diriger, gérer des équipes, etc., des projets, voilà, mais dans ma famille, il y a plutôt une aversion pour le risque, donc ça n'a jamais été quelque chose qui a été poussé. Ma maman n'aime pas trop ça, voilà, enfin, pour le risque.
Tes parents sont pas entrepreneurs, tu
vois ? Non, pas du tout. Voilà. Mon papa était pilote de chasse et pilote
de ligne.
Donc, oui, voilà, c'est un autre type de risque. C'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est un autre type de risque, mais pas du tout un risque business. La culture business, c'est pas du tout quelque chose qui est familial chez nous. Mais un ensemble de rencontres. Donc, moi, j'ai fait une prépa, une école de commerce assez classique. Je me suis plutôt spécialisée dans les médias au début parce que j'aime lire, j'aime la littérature. J'avais ce rêve un peu au début de travailler pour des belles marques de médias. Donc, je suis passée par Prisma Média pour les magazines féminins. Et après, j'ai fait un peu de TF1. Mmh. Et je suis allée dans un cabinet de conseil en stratégie, même un peu lobbying pour la transition des médias, justement, enfin, le digital dans les médias. Mmh. Un tout petit cabinet avec un ancien de la strat de Vivendi, Fleur Pellerin qui est passée par ce cabinet. Donc, moi, je suis arrivée en tant que stagiaire. J'étais waouh, c'était vraiment quelque chose de dingue. J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement des hautes sphères que je connaissais pas du tout par mon réseau. Puis après, je suis partie en Angleterre, surtout. C'est ça qui a vraiment forgé. Je suis partie 4 ans tout de suite après mes stages pour mon premier boulot avec mon copain. Et là, je suis vraiment tombée dans la Startup Nation version anglaise, mais là-bas, c'est un autre niveau. J'ai adoré travailler à l'anglo-saxonne. Ouais. Vraiment, l'esprit business qu'ils ont, alors on peut dire que c'est pas très straight to the point, mais en fait si, c'est très très business focus, même s'ils prennent des pincettes pour dire des choses. Et j'ai hyper progressé dans ma partie qui était le marketing, c'était ça. J'avais fait du marketing et de la strat à la base, sur toute la partie digitale, parce qu'ils sont hyper forts sur comment faire des ventes, très business driven à tous les niveaux, de toutes les matières, que ce soit de la com, du market, de la finance, des ops.
Et précurseurs aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même des techniques qu'on n'avait pas, enfin c'est eux qui ont inventé des choses quand même.
Carrément, le growth marketing, ça vient de là-bas, enfin ça vient des US, mais c'est très culture UK, anglo-saxonne quoi. Ils sont aussi, ils sont très forts pour tout ce qui est networking, meet-up, il y avait une effervescence sur la scène start-up digital à Londres. Je me retrouvais souvent dans des espèces de meet-up avec des gens de Google, des hackathons, Voilà, et il y a tout type de personnes. C'est pas que des jeunes qui cherchent du boulot et qui se font de l'expérience. Il y a des gens hyper capés qui viennent à ces événements. Ouais, donc une scène ultra dynamique, ça donne une énergie de dingue.
Mais on le ressent déjà quand on est à Londres, enfin, tu vois, quand on est là-bas, on sent qu'il y a une énergie.
C'est assez fou. Bon, après, moi, du coup, c'est ma ville de cœur parce que je trouve que c'est une ville où il y a tout le temps des choses à faire, des choses découvrir. Puis après, il y a un truc qui est quand même ultra agréable, c'est que les gens sont très ouverts, c'est très cosmopolite. Voilà, le fameux melting pot qu'on apprend quand on est à l'école en France, dans la réalité, c'est un délice, quoi. Après, ça a fait des... Ouais, moi, on avait une équipe de leadership, on était 18, dont, je sais pas, 15 nationalités différentes. Voilà, ça fait des conversations bien musclées, mais c'est impressionnant. Entre un mec qui vient, enfin, si on fait tous les stéréotypes, un mec qui un dev qui vient du Pakistan, un head of the ops indien, avec tous les, voilà, un espagnol, une française, enfin, c'était vraiment plein de styles différents, toutes les orientations sexuelles, toutes les couleurs, du coup, c'était hyper agréable, enfin, non, c'était difficile sur le moment parce que pour s'accorder, on se rendait compte de plein de problèmes culturels, enfin, en tout cas, de différences de culture. Mais au moins, comme ça, on se mettait bien dans la place de notre customer et pas dans nos, enfin, dans notre client, pardon, et pas dans nos chaussures à nous.
T'as raison, c'est un inconfort qui est utile au bout du bout.
Ouais, c'est pas évident à mon avis. Enfin, je me remets à la place du CEO à l'époque, parce que je me dis que c'est pour animer ces réunions où personne n'était d'accord, personne voyait les choses de la même manière. Moi qui me disais, enfin, des gens qui me disaient, on peut pas dire ça en marketing. Non, ça c'est too much, ça c'est pas assez inclusif, ça c'est bidule. On dit, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, et au moins ça, voilà, ça c'est une grosse richesse. Et voilà. Et donc après Londres, j'ai eu l'opportunité de rentrer en France parce que mon mari est entrepreneur aussi. Et puis, mon copain qui est devenu mon mari entre-temps, je me suis dit que les gens n'allaient pas suivre si j'expliquais pas ça. Et puis, voilà, j'ai rencontré des super entrepreneurs qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai co-créé des projets. Et j'ai lancé Mimetics, par contre, un peu sur le tard, en me disant que le fait de rentrer en France, c'était un bon moment pour le faire, parce que j'étais moins dans le rush de la start-up en Angleterre. Finalement, c'était pas vraiment le cas, mais c'était très bien comme ça. Et puis voilà, j'ai développé Spag dans un.
Et comment ça s'est fait? Ça a été quoi le déclic?
Le déclic, en fait, c'est que donc j'ai rencontré Martin Toulmonde et Charles Perrard, qui sont deux entrepreneurs qui ont créé un startup studio qui s'appelle Sparkling Partners. En France, le startup studio le plus connu et qui est le plus successful, c'est eFounders, parce qu'ils ont fait quelques licornes dans le Future of Work. Et j'ai été bluffée par ce modèle. C'était encore le début, il y en avait que deux, hein, globalement. Il y avait eFounders et Sparkling, qui n'ont pas du tout les mêmes thèses à la base, puisque eFounders, c'est très mono-vertical et hyper spécialiste, et ils sont très forts là-dedans, alors que nous, c'est plus, entre guillemets, artisanal, avec plein de verticales différentes.
D'accord.
Et on a eu un coup de cœur quand on s'est rencontrés. Martin étant l'ancien fondateur de Chrono Drive, le premier drive alimentaire en France, qui a ensuite été revendu à Auchan.
Ouais.
Coup de cœur vraiment, fit hyper entrepreneurial. Moi, je ressortais d'une relation justement difficile avec mon CEO de Londres, où on avait des gros désaccords de management. Et donc, c'était important pour moi d'être alignée dès le début. Et là, en fait, j'ai vraiment fait confiance à mon instinct. Enfin, c'était vraiment un gut feeling. J'ai arrêté toutes mes recherches. Je me suis dit, ah non, je veux bosser avec eux. Ils sont top, ils sont trop inspirants, hyper intéressants et tout. Et eux, ils ont eu, je pense, la même chose, puisqu'ils m'ont dit, écoute, on te donne carte blanche pour aider les startups de nos startup studios en marketing digital. Donc, je suis devenue la growth hacker.
D'accord.
Pour Sparkling Partners.
Pour
l'ensemble de leur startup qui avait déjà été développée. Donc, ils en avaient déjà une quinzaine. Et donc, avec mes petites mains et mes petits bras, j'en prenais 4 à 5 par... Enfin, je prenais des batchs de startups, parce que je ne pouvais pas bosser sur tout en même temps. Et en même temps, elles n'étaient pas toutes à leur stade de développement qui leur permettait que je pouvais aider, quoi.
D'accord.
Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans. Puis du coup, c'est un peu comme ça que j'ai constitué mon équipe. Mais là, j'étais salariée, j'étais employée du startup studio. Ouais. J'étais dans la core team, en
D'accord.
fait. Et je trouvais ça passionnant de faire ma matière, qui était le growth marketing, mais sur 5 cibles différentes, en B2B, en B2C, sur une startup qui avait 2 ans d'existence, une autre 5, des milliers de clients ou pas beaucoup encore, des zéro budget, c'était vraiment super divers. Donc moi, c'était ce challenge intellectuel qui m'a plu, en plus d'être dans des conditions géniales parce que à leur côté.
Bien sûr.
Et au bout de 2 ans, il y a eu le Covid. Et puis là, il y a beaucoup des relations du réseau de Sparkling Partners qui avaient entendu quelques succès que j'avais eu en interne, qui ont demandé à Martin et Charles, est-ce qu'on peut travailler avec Coralie, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
D'accord.
Que Donc là, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'ouvre à l'extérieur? Est-ce que j'accepte d'autres projets qui ne font pas partie du startup studio? Je peux avoir de la bande passante, mais ça nécessite de structurer une équipe ou pas. Sachant que depuis le début, sur la table, il m'avait dit, mais pourquoi t'es pas entrepreneur encore? C'est pas possible. Voilà, Martin avait dû sentir un truc chez moi, je pense, en me disant, j'ai dit, je sais pas, j'ai pas eu l'idée. Enfin, et en fait, ce que c'était pas vrai, parce que j'avais déjà,
bah, bien sûr.
J'avais déjà lancé Mimetics, mais pour moi, c'était pas encore un projet entrepreneurial à part entière. C'était plus quelque chose que je testais. Et voilà. Et donc, on a décidé j'ai décidé d'accepter ces projets externes, de structurer une équipe, ce qu'on a fait pendant le Covid, donc pas évident, parce que voilà, ça a été beaucoup de friction d'organisation, etc. Et après, on s'est dit, bon, on s'est tapé dans la main en mode, bon, ben, on s'est toujours dit qu'on entreprendrait ensemble. Je cherchais un projet, mais je savais pas trop lequel. En fait, ma spécialité, là où je suis forte, et ce qui me donne de l'énergie, c'est ça, c'est le marketing digital et le growth. J'avais pas penser faire une agence ou voilà. Et en même temps, depuis que je suis en France, je vois plein de dysfonctionnements dans le marché des agences qui me choquent, moi, venant de l'Angleterre. Mm-hmm. Donc, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, en fait, on a dit, OK, ben, officiellement, on a créé SPAG en 2021.
L'as créé, donc vous êtes trois, c'est
on
ça?
On est trois, ouais. Donc, ouais. Martin et Charles sont mes associés, mais pas opérationnels. C'est moi la CEO et qui le gère. Maintenant, j'ai quand même effectivement leur soutien stratégique et quotidien. Et puis, ils m'ont aidé à financer le début.
C'est quoi la différence notable quand tu dis il y avait des choses qui me choquaient entre le marché anglais et le marché français? C'était quoi?
Alors, il y a deux choses. Y a,
ça va être
y a
peut-être un peu technique, mais attends, avant qu'on parle de ça, quand même, parce que pour les novices, puisqu'on n'est pas non plus... le growth, c'est-à-dire le fait de grandir, faire la croissance, tu en as fait une spécialité, mais c'est-à-dire que techniquement parlant, ça consiste à accompagner... Tu vas me m'aider dans la définition, mais ça consiste à accompagner des startups, des PME, des grands groupes à se développer en termes d'image et donc en termes de chiffre d'affaires au bout du bout.
Oui, alors si je réexplique un peu le growth marketing, c'est globalement, en France, on appelle plutôt ça du marketing digital ou en tout cas utiliser le digital dans le marketing.
Ouais.
Juste le growth, c'est un état d'esprit, encore plus avec des méthodos assez particulières. Ça, c'est ce qui vient vraiment, qui est très typique de l'Angleterre et des US. Mm-hmm. C'est des méthodos de test and learn, d'itération, c'est presque un peu scientifique. Donc, c'est remettre beaucoup de données dans le marketing. Mm-hmm. Ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire en France avant, en tout cas, moi, quand je suis rentrée il y a 5 ans, j'étais un peu surprise du décalage, parce que je ne savais pas le niveau des pays, mais j'ai pu comparer avec l'Angleterre. Donc, remettre beaucoup de données, tester et être dans une logique, effectivement, d'essayer de trouver la martingale de croissance, si je peux prendre un peu des termes de poker, mais d'essayer de trouver ce qui va fonctionner et puis de mettre tous nos pions là où ça marche.
Ça la grande différence avec l'Angleterre.
Exactement, c'est du pilotage par de la performance, vraiment. Eux, ça fait très longtemps qu'ils font du marketing à la performance.
Donc, c'est remettre le client au centre quand même.
Le client au centre, tout à fait.
Alors qu'en France, tu avais constaté plutôt qu'on balançait des trucs sans trop savoir à qui on les balançait.
On faisait des jolis packaging, des belles couleurs, on faisait des BAT, on se disait, tiens, c'est un beau message. Là, on se dit, OK, on fait de l'hypersegmentation, on va dire, c'est qui notre cible, dit quoi à cette cible. Aujourd'hui, on sait que, enfin, nous, chez SPAG, on dit toujours qu'il y a entre 8 et 9 points de contact avant qu'une personne décide ou pas, peut-être, de faire un achat en ligne. Il faut être présent sur toutes ces étapes avec des messages différents qui soient pertinents pour chaque cible. Donc, en fait, il y a beaucoup de tests, beaucoup de variations, beaucoup de leviers. Mm-hmm. Donc, c'est très riche. Mais c'est un état d'esprit. Il faut aller vite. On pense à la semaine, on pense vraiment business. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, ce qui m'a... je ne sais pas si c'est clair.
Pour moi, c'est super clair.
Sur la partie, ce qui m'a marqué, en tout cas sur le milieu des agences en France, je pense que on connaît tous les Big Six, Publicis, les Havas, etc., qui gèrent le marché depuis très longtemps et qui, je pense, ont abusé sur certains côtés pendant longtemps avec des commissions énormes. Basé sur des livrables très stratégiques, peu actionnables, peu d'opérationnel, même si je respecte beaucoup le travail, j'ai beaucoup d'amis dans ces agences-là, je respecte beaucoup leur boulot, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette défiance du coup des marques qui disaient que si on utilise une agence, ça coûte énormément cher pour pas toujours grand-chose, avec des conditions pas très flexibles aussi, on s'engage pour longtemps sur des gros projets, Et puis à côté, des cabinets de conseil pas très hands-on, pas très opérationnels, qui donnaient des PowerPoints, sauf qu'en fait, en digital et en marketing digital, particulièrement...
C'était pas applicable.
Il faut appliquer, il faut être très bon dans l'exécution, il faut être très rapide, il faut être super agile. Donc déjà, ça me paraissait super bizarre de dissocier les deux, d'avoir des cabinets de conseil et des agences qui en réalité sont moins conseils parce que souvent avec beaucoup de juniors, voilà. Moi-même, j'avais pas aimé ma relation avec une agence Google Ads que j'avais quand j'étais au UK. Mmh. J'avais trouvé que c'était très prestataire, voilà, très...
Finalement, pas très humain, quoi.
Ouais, tu me fais un reporting, bon, ça se challenge pas vraiment, ça run, bon. J'avais pas trouvé ça très intéressant et je me suis dit, pourquoi, en fait, on n'est pas capable aujourd'hui en France, je sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais de déployer une force, un peu un commando, une équipe marketing externalisée avec plein de compétences en interne sur un projet comme dans une start-up, quoi. Enfin, comme ce que j'avais fait pour Sparkling Partners, où je vais mettre 5 personnes d'un coup, un peu en mode commando, on va essayer de trouver cette martingale, on fait plein de tests, etc., etc., pendant un certain nombre de mois, jusqu'à trouver ce qui fonctionne, puis après d'accélérer. Et puis après, l'accélération, c'est aussi des choses qu'on fait plus spécifiquement. Mais l'autre point, c'est qu'en France, sur les agences, notamment en marketing digital, il y a beaucoup de leviers. On peut faire de la pub sur Instagram et Facebook, la pub sur Google, du référencement naturel avec du SEO, de l'emailing, voilà. Et les agences étaient structurées telles qu'il y ait en fait une personne par levier. Or, aujourd'hui, en digital, ce qui fonctionne, c'est de faire des synergies entre tous les leviers.
En fonction de la cible.
Voilà, c'est ça, en fonction de la cible, entre son Instagram organique, l'email qu'on envoie à son client. Puis... Et donc, c'est important que tout le monde soit au courant de l'ensemble des campagnes. Parce que ce qui compte, c'est le client. Donc, que ce soit par mail, par Google ou par Facebook, il faut que ça soit homogène. Et je trouvais ça pas du tout naturel, en fait, que ça soit... voilà. Donc nous, on a des équipes polyvalentes qui vont travailler, alors qu'on leur majeur, il y en a qui sont plus techniques sur certains leviers, mais comme on a tous les leviers en interne, par contre, on déploie une équipe polyvalente. Ça, c'est un peu... Qui se parle, il n'y a pas de silo, en fait, entre les leviers. Voilà, et le dernier point qui est le plus important, c'est qu'en France, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'agences médias qui prennent des commissions sur le budget qui est dépensé. Et ça, moi, d'un point de vue entrepreneurial, je ne comprends pas encore comment c'est possible d'accepter ça. Parce que ça veut dire que l'agence va forcément avoir intérêt, son intérêt personnel en tant qu'entreprise, de pousser à plus d'investissements médias.
Bien sûr.
Or, aujourd'hui, on veut pouvoir pousser du CRM et du SEO si c'est ce qui est le plus malin pour la marque. Par exemple, dans les gros investissements.
Alors, du coup, quel est le modèle économique? Tu te rémunères comment? Enfin, l'agence se rémunère comment?
Alors, nous, du coup, on se positionne beaucoup plus comme un cabinet de conseil strat qui, en plus, a une force d'exécution et digital technique comme une agence. Et on ne prend absolument pas de commission sur les dépenses. Par contre, on facture comme un cabinet de conseil ou des avocats au TJM, enfin au taux au jour. Puisqu'on on va déployer telle équipe pendant tant de temps sur la mission et c'est à nous d'être sûr de bien calibrer combien de temps ils vont passer. Donc on fait des phases généralement pour être sûr que ça soit.
C'est-à-dire que le résultat soit au-delà de vos espérances ou qu'il soit en deçà, ça ne change pas vos prix.
Voilà, ça ne change pas nos prix. Et qu'ils dépensent 10 000 euros ou que d'un seul coup on trouve la martingale et qu'ils dépensent 200 000 parce que ça leur fait plein de revenus, ben nous on prend pas plus d'argent. Ça nous permet d'avoir pour moi un conseil super impartial dans ce qu'on fait. Et puis on a un peu, alors ça c'est, on verra avec le temps si c'est une bonne idée ou pas, c'est un peu un parti pris que j'ai pris, mais on n'a pas de relation privilégiée avec, alors on est avec, avec les GAFAM, avec Facebook, Google, etc. Donc on n'a pas de ce qu'on appelle de kickback, personne ne nous renvoie des commissions si on met de l'argent chez eux. Alors que les autres agences fonctionnent comme ça. Donc, on se tire un peu une balle dans le pied puisqu'on se coupe d'une partie des revenus. Mais ça me paraît être complètement aligné, en tout cas, avec...
C'est très transparent,
voilà,
surtout.
Voilà, avec notre but qui, nous, est de faire de la croissance pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Donc, il faut qu'on soit aligné avec eux sur le budget. Donc, on peut parfois faire du variable en se disant, bah, voilà notre objectif. Nous, on déploie cette équipe pour faire cet objectif.
Oui, mais ça fait partie de la mission. Enfin, c'est...
Voilà, ça fait partie de la mission. Et si on dépasse tout ça, bah, on peut partager la part en plus parce qu'on aura très envie de vous faire cartonner, quoi.
Bon bah tu me donnes plein d'idées. On en reparlera après le podcast. Aujourd'hui, t'es organisé comment? Je suppose que t'as quand même plusieurs salariés sous ta responsabilité. Je crois une quinzaine, c'est ça?
On est 25.
25? Ouais, oh là là. Alors j'ai pas mis à jour, mais moi j'étais tombée là-dessus.
On l'écrit pas partout.
D'accord. T'as fonctionné aussi en croissance externe, c'est-à-dire que vous avez racheté une entreprise.
Tout à fait.
Dont on va parler, mais voilà, c'est-à-dire que. T'es quand même passée de la jeune femme qui travaille pour le compte en étant salariée, etc., d'autres gens, à entrepreneuse et puis maintenant quand même patronne d'une entreprise d'une taille relativement importante. Donc voilà, je suis assez curieuse de savoir comment t'organises ton temps, comment tu t'organises, est-ce que tu fais toujours autant de commercial, t'es toujours au front et tu vas chercher les clients et tu les rencontres et tu passes du temps à essayer de comprendre leurs problématiques et que c'est ça la valeur ajoutée de Spag aussi, certainement. Je sais pas, j'anticipe ta réponse.
J'espère.
Et après, parce que c'est très dur, c'est-à-dire que t'as quand même un côté tailor-made de ce que je crois comprendre, tu vois, de sur-mesure. Donc, ça doit pas être évident de se développer finalement, non?
Ouais, alors c'est sûr que c'est pas une entreprise qui scale comme on dit. On n'est pas en train de créer un logiciel SaaS avec des abonnements et tout. Ça, non, ouais. On fait du service, donc déjà le service c'est hyper dur. Je m'en rends compte chaque jour parce que il faut être super performant tout le temps, hyper pertinent. Donc ça veut dire que mes équipes elles doivent être formées constamment à tout ce qui se passe, puis délivrer de la qualité techniquement, être bon gestion de projet, en communication. Enfin voilà, je cherche un peu des ninjas qui sont capables d'avoir. Enfin, moi, surtout qu'on essaye un peu d'être le nouveau, en tout cas le BCG, le McKinsey du growth, c'est-à-dire un niveau de qualité d'exigence, de standard d'un cabinet de conseil en strat, qu'on admire parce qu'ils sont très bons, très pertinents, et voilà. Et pour autant, très les mains dans le cambouis, proche des entrepreneurs, avec un ADN entrepreneurial où on déploie les stratégies, on exécute vite, rapidement. Voilà, donc, il me faut des gens qui soient capables d'avoir cette.
De faire le grand écart.
De grand écart entre de la créativité, de la compétence technique et aussi de la prise de recul et des livrables d'un cabinet de conseil aussi. Donc, le plus gros challenge que j'ai, c'est mon équipe. Quoi. C'est le recrutement, la formation, la rétention et tout, bien sûr, comme tout entrepreneur. Là, aujourd'hui, on est 25, on est à Paris et à Lille. Moi, je suis aussi effectivement beaucoup dans le business.
Ouais.
Déjà parce que j'adore rencontrer les prospects. Et comme en plus, le marketing, le growth, c'est ma matière.
Ouais.
Je peux aider à la strat des entreprises. Je ne suis pas juste gestionnaire. J'ai plutôt appris à être gestionnaire d'entreprise, mais à la base, je suis growth marketer. Donc, j'aime bien. Donc maintenant, j'ai des directeurs de clientèle. Et puis, j'ai surtout capitalisé sur une équipe beaucoup plus senior que la moyenne. Pareil, autre gros risque que j'ai pris, c'est-à-dire ne pas prendre de commission des GAFAM et prendre des profils beaucoup plus seniors, donc qui me coûtent beaucoup plus cher en tant que petite structure. Mais parce qu'ils sont beaucoup plus pertinents, parce que ça réfléchit vite, ils savent faire de la strat. Et puis j'ai d'autres profils qui sont très entrepreneurs, qui justement, il y en a qui ont été entrepreneurs sur le côté, qui ont monté des boîtes ou qui ont été dans des environnements en hyper-croissance, qui sont capables de déployer, de tenir cette pression aussi d'exécution. Moi, après, j'aime bien faire du business parce que ça reste des rencontres. Je pense que c'est pas ce qui plaît, c'est que dans nos valeurs et moi en tant que personne, je me suis hyper honnête et transparente, très directe aussi. Donc soit ça fit, on pense qu'on peut les aider et ça marche et on va tout faire pour. Et quand ça marche pas, on est OK pour s'arrêter. Enfin voilà, moi j'ai des conditions ultra flexibles d'un point de vue contrat parce que encore une fois, on verra dans le temps si c'est bon choix, mais ça me paraît être plus intéressant pour les entrepreneurs et plus agréable comme relation. Et puis il y a des clients parfois où on se dit soit on peut pas vous aider, soit ça matche pas, vous êtes pas dans nos valeurs, on prend pas quoi.
Pourquoi t'as racheté une entreprise? Parce que justement c'est ça l'objectif, c'est de commencer à te développer par acquisition ou c'est un hasard ou
un peu un hasard, un peu une opportunité. J'ai toujours beaucoup aimé parler à mes confrères alors qu'ils sont très masculins, c'est un milieu qui est très masculin, donc
on va en reparler après.
Tout le monde ne veut pas me parler, ça c'est assez marrant. Enfin tout le monde en tout cas.
Ah ouais.
Non, j'exagère, mais tout le monde ne prend pas le temps ou ne se trouve pas ça forcément intéressant. Donc moi j'ai toujours trouvé ça étonnant. Mais en tout cas j'avais pris le temps et on avait pris le temps avec Grégoire Gambato de se rencontrer puisque c'était l'autre gros challenger, c'est le premier qui a créé une agence growth en France, qui a une communauté de 100 000 personnes qui le suivent sur LinkedIn. Donc, c'était un peu un ovni pour moi parce que c'était juste l'opposé. Moi je ne parlais pas, je n'étais pas dans les médias, et puis il faisait des trucs hyper clivants, pas du tout mon style, mais on s'était beaucoup parlé, très intéressant parce que c'est quelqu'un de très honnête qui racontait toutes ses histoires entrepreneuriales,
etc. C'est Germinal le nom.
Oui, c'est Germinal, effectivement. Et puis le jour où, pour des raisons d'association, de nouveaux projets, il s'est dit qu'il voulait partir de Germinal, ça ne faisait déjà plus agence ou service, donc moi c'était très bien parce que j'avais cette partie-là. En revanche, il avait développé toute une partie sur la formation en growth marketing, qui était moi une BU que j'étais en train de développer, mais qui prend beaucoup de temps, la création de contenu. Tu le sais, tu fais un podcast, c'est difficile de gérer à la fois une entreprise de service en croissance et à la fois la création d'un contenu de formation. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et il m'a proposé, il m'a dit, je veux vendre, je pense que tu es la meilleure personne pour, est-ce que ça t'intéresse? En tout cas, ça me ferait hyper plaisir de revendre à toi.
T'es quand même allé sur un nouveau marché. C'est quasiment un nouveau marché. C'est complémentaire, mais c'est quasiment un nouveau marché.
Donc c'était pas pour consolider mon entreprise principale, c'était pour faire autre chose, pour aller plus vite sur cette partie de formation qu'on faisait déjà pour nos clients, mais d'avoir plus de choses à leur proposer, etc.
C'est génial, ça veut dire qu'en gros, tu as un client qui va venir te voir et qui te dit, j'ai une problématique comme ça, Bah ouais, on va répondre à ta problématique, mais en plus, on va te vendre une formation pour que t'aies plus besoin de nous.
En exactement. Moi, nous, en fait, et ça, c'est super différent dans ce fameux marché des agences dont on parle, c'est que je leur dis, moi, mon intérêt, c'est pas qu'on soit votre agence pendant 5 ans, enfin, votre cabinet de conseil pendant 5 ans, c'est vraiment qu'on trouve le truc qui fonctionne chez vous, qu'on vous forme, qu'on vous fasse la passation, et puis qu'après, vous internalisiez, parce que c'est hyper sain. Le marketing digital, aujourd'hui, c'est trop clé pour l'externaliser. C'est comme si quelqu'un a besoin de quelqu'un de restructurer sa finance. Hop, mets tout carré et puis après réinternalise. Mais moi, ça me pose pas de problème parce que je sais qu'ils auront. C'est très vaste comme marché, donc comme domaine, donc ils auront toujours besoin de moi sur certaines parties. Et puis comme on a des hyper bonnes relations avec nos clients aujourd'hui, qui sont trop sympas, ils sont trop mignons, ils font plein de témoignages pour nous. Et ben ils nous rappellent sur des problématiques où ils ont un peu besoin d'aide sur des campagnes, sur certains leviers où ils préfèrent que ce soit nous qui le faisions. Voilà, nous, enfin voilà.
Médecin de famille, quoi.
Enfin, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça.
Médecin généraliste.
C'est plutôt, on vise plutôt long terme dans la relation de confiance. Mmh. Mais, et donc, on est certifié Calliope, donc on peut officiellement faire des formations. Donc, il y a des clients pour qui on ne fait que de la formation. Enfin, des nouveaux clients qui, maintenant, du coup, nous viennent pour de la formation.
Pour ça, ouais.
Voilà, pour ça. Mais sinon, généralement, c'est plutôt parce qu'on fait du conseil très large, long terme, etc., qu'en plus, on ajoute une brique formation pour faire la passation. Parfois, on va même jusqu'à aider au recrutement de la bonne... Enfin, on fait les entretiens techniques pour la personne qui va nous remplacer, pour être sûr que c'est la bonne personne, puis la passation avec elle. Et... C'est ce qu'on a fait pour Decathlon Travel, par exemple, et ça s'est très bien passé.
Moi, je suis assez admiratif parce que quand j'ai interviewé il y a pas longtemps une jeune femme qui est dans un secteur, à savoir l'agriculture, où c'est pas forcément très féminisé aujourd'hui, toi aussi, donc je trouve ça inspirant. Moi, c'est pour ça que je suis ravie de te recevoir, c'est que parce que tu l'incarnes, et je suis très attachée à ça, tu démontres par A plus B que c'est possible de s'imposer dans un secteur qui est quand même relativement masculin.
Carrément.
Comment t'arrives à faire ça? Il y a une manière de faire ou pas?
Non, je pense que déjà, j'ai eu la chance que mes parents, mon père particulièrement, n'aient jamais fait de différence sur le fait que je sois une fille. Non, mais ça aide. Je pense que ça m'a
donné au club.
Ça m'a donné des aptitudes, ou en tout cas, je ne me suis jamais posé la question de « Ah non, ça, je ne peux pas le faire parce que je suis une fille. » Je ne me suis jamais posé cette question-là. Après, je suis plutôt un peu casse-cou. Voilà, j'ai... Enfin, casse-cou, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas... Et puis, j'ai ce côté très leader. Voilà, donc, j'ai fait du handball pendant très longtemps à haut niveau. Donc,
ça aide
aussi parce que c'est un sport quand même... Il y a beaucoup de contacts, c'est assez violent. Alors, dans des équipes de filles, bien sûr, mais en tout cas, je me suis toujours sentie pas la petite chose fragile où il faut s'imposer. J'ai pas de problème à m'imposer, en tout cas, en étant un peu extravertie aussi. En revanche, ça demande pas quand même pas mal d'abnégation. Enfin, faut souvent que je prenne sur moi pour leur dire, vous êtes sérieux, en fait. Vous êtes sérieux, être hyper macho. Là, vous êtes vraiment sérieux à se dire que ça n'a pas d'intérêt de me parler parce que je suis juste une meuf de qui vous n'avez pas entendu parler et que vous ne me prenez pas au sérieux. En fait, voilà ça. Ça, c'est.
Et t'as senti l'évolution entre le début et maintenant? Parce que même si c'est pas, on parle pas de 20 ans, mais il y a quand même 5 ans qui se sont écoulés. Enfin,
oui, c'est ça, 5 ans.
Tu sens qu'il y a une évolution, un changement de regard?
Oui, en France, oui. En fait, en Angleterre, j'avais pas ce sujet-là. Parce que
c'est sûr, là-bas ils sont pas
donc
comme
en
ça.
Fait là-bas qu'on soit gay pas gay girl j'allais dire femme pas femme et tout, il y a pas de sujet et qui sont vachement plus avancés là-dedans, donc ça m'a donné cette confiance là aussi techniquement et voilà sur dans ma carrière professionnelle. J'ai fait un petit step back, j'avoue, quand je suis arrivée en France dans le milieu du Nord, qui est un milieu voilà aussi très ouaté, très fermé, très bon, je me suis dit bon ok voilà, et pour autant on m'a ouvert les portes et en même temps, effectivement, depuis quelques années, grâce à des podcasts comme vous, sur des sujets sur l'impact, sur l'égalité des sexes, etc., qui sont des sujets qui me tiennent hyper à cœur, on peut au moins s'exprimer. Alors, j'entends souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des podcasts, et c'est vrai que les garçons sont surreprésentés, déjà dans les podcasts, dans les médias.
Tu veux dire en tant que host?
En tant que host, bien sûr. C'est vrai, et c'est dommage parce que nous, on ne prend pas la peine de parler. Moi, je me dis souvent, qu'est-ce que je vais avoir à raconter? C'est pas si waouh. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs mieux. Et puis en même temps, parfois, quand je vois dans les médias ce que font mes concurrents,
ils disent
que n'importe quoi.
C'est surtout que si tu attends uniquement du waouh, enfin, ce que je veux dire, c'est que le waouh, selon toi, n'est pas forcément le waouh d'un autre.
Exactement,
tu vois, enfin, on est toujours le Steve Jobs de quelqu'un, quoi.
C'est ça.
Donc à partir de là, il faut justement des exemples qui inspirent. Et puis l'inspiration, elle ne vient pas forcément d'un truc qui est complètement décorrélé du sol.
Non, c'est sûr. Et puis parfois, je me dis, en fait, eux, ils n'ont pas peur de prendre la parole, d'aller au culot, de raconter des trucs qui sont. Limite, vrai. Donc, pourquoi moi, je pourrais pas raconter mon histoire en étant honnête là-dessus. Et voilà. Mais donc, oui, je vois un changement. Je trouve ça hyper positif. Je reçois plein de messages sympas de filles qui disent que je leur donne confiance. Et ça, c'est le plus beau des messages qu'on peut recevoir, je trouve. Enfin, je me dis, cool, allez, encore deux de plus qui vont avoir confiance et le faire. Et franchement, dans les relations, je suis après, faut être à l'aise. Je suis souvent dans des meetings avec des mecs, avec des patrons, voilà. Mais comme je suis dans une matière aussi un peu avec du marketing, il y a quand même des femmes CMO, des femmes head of growth. D'ailleurs, elles viennent souvent nous voir. Et pour être honnête, ça me permet aussi de recruter des super talents, soit des mecs qui sont hyper open, les mecs de mon équipe, et qui sont très contents d'avoir un leadership féminin.
T'as beaucoup d'hommes et de femmes, enfin c'est mélangé tes
équipes. C'est plus ou moins une parité. Il y a un peu plus de filles en ce moment, mais ça varie selon les temps. On a des mecs canons aussi trop forts. Et je pense que le leadership féminin intéresse maintenant, et ça peut être parfois un élément décisif dans le choix d'une entreprise. Et ça, je me dis que c'est cool.
C'est une vraie avancée.
Ouais. Personne va me dire, ouais. Ah bon, il y a une femme à la tête, je sais pas. Non, où ils se disent, ah ouais, c'est canon et on a trop envie de lui faire confiance. Et voilà.
C'est bien, ça montre que ça a changé. On reviendra sur le leadership féminin, même si, tout comme toi, je faisais pas trop de différence avant sur les qualités indispensables et principales à avoir quand on est un leader. Mais on en reparlera après si ça te dérange pas. Je voulais parler de Mimetics, bien sûr.
Oui.
Parce que alors, Mimetics, c'est un jeu de mime des expressions françaises. C'est un carton plein. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et comment c'est arrivé en fait?
Ouais, bah ça, pareil, c'est encore des gens qui nous ont. Enfin voilà, j'ai créé ça avec un copain d'école qui s'appelle Grégoire Danel. On aimait bien jouer au Time's Up, comme beaucoup à cette période de notre vie d'étudiant. Moi, je suis hyper compétitive, donc je voulais toujours gagner. Ça faisait chier tout le monde. Et puis, à des soirées un peu, voilà, on s'est dit, bon, c'est quand même cool le Time's Up, mais c'est un peu pénible de mimer toujours des personnages, ça manque un peu d'histoire, enfin, on doit faire toujours la même chose. Voilà. Et on a commencé à mimer des expressions françaises, parce que la richesse des métaphores dans les expressions nous permettait de faire des mimes un peu plus, on était presque à raconter des histoires au faire du théâtre. Et ça a fait marrer tout le monde, sauf qu'on s'est vite retrouvé coincé parce qu'il fallait que les gens pensent à des expressions pour jouer. Et puis, c'est toujours les mêmes qui revenaient, avoir les yeux plus grands que le ventre, plus gros que le ventre, mettre les pieds sous la table. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a dit œil, tous les gens pensent à toutes les expressions avec les yeux, avoir des yeux de merveilleux frits, etc. Donc, on s'est dit, bon, en fait, on va tourner avec 25 expressions constamment. Et puis, je me souviens très bien d'un week-end où on était ensemble justement à jouer à Zula et tout le monde nous a dit, enfin, on avait plutôt des ingénieurs et des littéraires autour de nous. Et nous, on était les deux, on a fait école de commerce, où ils nous ont dit « Ah, mais vous devriez trop faire ça, ça vous irait trop bien. » On était là « Ouais, je sais pas, voilà. » Et on s'est dit « Bah, pourquoi pas ?» Sauf que c'est tombé au moment où moi, je suis partie en Angleterre et lui est parti en Allemagne avec sa femme.
Donc, c'est un projet qui date d'il y a longtemps.
Ouais, c'est un projet qui date et qui a germé dans nos esprits pendant pas mal de temps. Donc, c'était à notre sortie d'école, je pense, en 2014, je pense qu'on a eu l'idée. Et après, on est rentré à fond dans nos vies pro, start-up chacun de notre côté, donc beaucoup de boulot. Lui, il a eu des enfants, donc voilà, ça a pris du temps, c'était pas notre priorité. Et puis, il se trouve que par le hasard de la vie, on est tous les deux rentrés en France en même temps. Moi à Lille, lui à Lyon. On s'est dit, profitons de ce moment-là. Puis nous, entre-temps, on avait continué à faire tester le jeu. Et c'était un carton plein dans le sens où les gens se marraient à chaque fois. Les gens disaient, on refait encore. Donc c'était quand même signe que c'était marrant. C'était notre but, de faire rire les gens quand même.
Ouais.
D'apporter un peu de légèreté avec un sujet cool. Et donc on s'est dit, ok, on le fait. Et puis on avait un peu ce truc de se dire, ah, ça serait sympa d'avoir un produit physique à nous. De se dire qu'on a réussi à créer quelque chose. Parce qu'on s'était posé la question au début de faire une app. Puis moi, en marketing digital, je sais le coût de développement et surtout de marketing d'une app. Et je me suis dit, enfin, pas non plus s'endetter pendant des milliers d'années. Et donc, on a mis toutes nos petites économies. Enfin, vraiment, c'était. J'ai dû mettre, je sais pas, 2000 euros et j'avais plus rien sur mon compte. Quoi. Genre, on a tous mis ça. Enfin, donc Grégoire, et puis j'ai un peu pris de l'argent à mon mari aussi pour, pour faire un pot commun.
On a pour ça aussi.
Voilà, ce qui nous a payé notre première production de jeu. Et donc, on était trop fiers d'avoir nos 1000 premiers jeux. Et on s'est dit, au pire. C'est pas périssable. C'est un jeu de société. Si on met 20 ans pour le vendre...
C'est pas très grave.
Ah ouais, 10 par 10 par an, je sais pas. C'est pas très grave. Et on retrouvera nos 2
000
euros. Et
là, vous avez vendu, je sais même plus combien.
On a vendu plus de 100 000 jeux.
C'est incroyable.
Aujourd'hui. Ouais, c'est
à des énorme. Entreprises et des particuliers ou
Principalement des particuliers.
Ouais.
L'entreprise, c'est quelque chose qu'on veut développer parce qu'on trouve que c'est un super cadeau d'entreprise.
Ah ouais.
À Noël, pour les employés et tout. C'est, on viendra un peu après sur ce qu'il y a exactement, mais... Non, c'est top, mais on le vend. Là, on est dans 800 magasins en France, donc on le vend beaucoup en retail. On le vend en ligne sur notre site. On le vend sur Amazon aussi.
C'est génial.
Voilà. Donc, c'est trop cool, mais ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas.
Mais c'est ça, mais comment tu gères maintenant les deux ? Parce que ça, c'est ça qui est intéressant.
C'est assez dur. Hein, c'est...
Parce que du coup, tu te retrouves avec deux boîtes, toi. Enfin,
ouais, exactement. Alors,
enfin, je sais pas combien il y a de personnes dans Mimétique.
Mimétique, il n'y a pas de personnes. Ouais. On n'a pas de salariés, c'est nous. Donc, c'est vraiment le soir et le week-end. Ça allait pendant un moment, puis depuis que, parce que j'ai pas précisé que mon associé est aussi entrepreneur dans la vraie vie, il a repris une entreprise familiale dans le bâtiment, dans la rénovation de.
Vous dormez jamais en fait.
De maison à Lyon, et donc lui il est beaucoup sur des chantiers, voilà, donc il est pas souvent devant son ordinateur. Moi je suis quand même 150% de mon temps sur Spag, voilà. Et pour autant ça nous tient à cœur parce que on se dit qu'on a créé un produit, on a réussi à faire un truc, c'est que le produit plaît, ce que tous les entrepreneurs veulent faire quand même. Trop de chance, hein, ça plaît, ça marche, et donc c'est génial. Et surtout, en fait, ça véhicule des super valeurs. Il y a plein de côtés ultra positifs, donc on veut le continuer. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est le manque de temps, hein, clairement. Donc, on réfléchit aussi à des questions de voilà, comment on peut se rapprocher d'autres personnes pour s'aider à le gérer. Mm-hmm. Voilà. Après, ça nous a poussé à faire des actions très héroïstes, avec des retours sur investissement tout de suite, parce qu'on a tellement peu de temps à y accorder.
Bien sûr.
Que, voilà. Après, on a eu beaucoup de médias au début qui ont vu la...
800 points de vente, c'est énorme.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de médias pour nos 1000 premiers jeux qui nous ont aidés à les vendre en 9 mois.
D'accord.
Donc on était là, oula, ah oui, on va pas du tout les vendre en 20 ans, en fait. Et grâce à ça, on a été acceptés par un des plus gros distributeurs de jeux en France, qui s'appelle BlackRock Games, qui est celui qui distribue Blanc Mange et Coco, enfin tous les gros succès du moment. Okay. Alors qu'ils prennent 4 jeux par an, qu'ils m'avaient dit 4 fois non avant.
Incroyable.
Et là, j'y suis retournée. Voilà, faut être un peu persévérant quand même. Et ils m'ont dit, trop bien, on vous prend. Et c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui distribué partout en France, à la Fnac, chez Cultura, dans les espaces culturels Leclerc, au Monoprix, BHV, des concept stores. Et puis tous les magasins de jeux indépendants, parce qu'il y en a beaucoup en France qu'il faut soutenir, parce que c'est des petites
Amazon, indépendants.
Non, en fait, Amazon, on s'est dit qu'on le gardait, nous. Un, parce que le digital, c'est quand même mon métier. Et deux, parce que aussi, dans le futur, on ne sait pas si...
Non, mais je veux dire, on peut acheter le jeu
sur Amazon. Ah oui, on peut acheter le jeu sur Amazon. Ouais. Mais c'est nous qui le gérons, ça, par contre.
Ouais, donc la gestion des stocks et tout. Voilà, c'est ça. Ouais, compliqué.
On a des petits sujets de stock en ce moment. mais on a appris à tout faire. J'avais jamais fait de prod avant, de gestion de prod, de packaging. On en est à notre 5e packaging tellement on évolue. On fait du test and learn sur nos packaging aussi puisque c'était pas notre métier. On avait tout fait nous-mêmes.
Comment tu gères tout ça ? Parce que moi, ça me paraît fou. En termes d'organisation, etc. Ouais,
après, je suis bien organisée, j'aime bien ça quand même. Mes copines m'ont déjà fait un discours là-dessus tellement j'avais un semainier. J'étais la dernière. Ouais. Après, maintenant, je suis quand même passée au digital, mais on s'est bien cherché parce qu'on n'habite pas dans la même ville en plus.
Ouais.
Sur comment fonctionner. Mon associé a plusieurs enfants maintenant en plus, donc ça lui prend du temps le week-end. Donc voilà. Moi, j'arrivais bien à travailler le week-end. Puis je suis très WhatsApp, machin, donc je mettais pas mal la pression par message, c'était pas ce qui fonctionnait le mieux. Alors que lui, il avait besoin d'un temps dédié, plutôt tard le soir.
Ah oui, je confirme, quand t'as des enfants, t'es plus calme
aussi. Voilà, pour travailler, mais plutôt avoir une session de travail ensemble, alors que moi, je préférais travailler de mon côté et avoir un peu des backups. Donc cette année, on a trouvé un rythme qui nous va pas mal. On a nos mardis soirs, où de 21h30 à 23h30, on s'appelle, et puis là, on... tacle des sujets en live. Donc lui, il fait toute la partie compta, prod, logistique. Moi, je fais toute la partie marketing, vente, toute la partie autre de la gestion. Et comme ça, on est en live, on valide des choses. Et puis, on travaille sur cette plage horaire-là. Et ça nous permet d'avancer toutes les semaines. Parce que sinon, c'était compliqué dans la communication.
Qu'est-ce que tu fais pour ce... Enfin, logiquement, ça va te servir. Enfin,
bien sûr. Et puis, Mimétique s'est passé chez Spag pendant un an, ce qui nous a aidé à bien décoller aussi, puisque donc mes équipes de Spag travaillaient pour Mimétique. Donc on payait Spag comme équipe externalisée, c'était parfait pour moi. Après aujourd'hui,
c'est
on y passe
un modèle en soi. En fait, tu me fais penser à un truc, mais c'est un modèle. C'est-à-dire que demain, tu peux te dire, tu montes n'importe quoi, et puis hop,
Bien sûr.
Finalement, puisque c'est quand même le fer de lance, ce que tu fais avec Spag, demain, tu peux te dire que tu crées des entreprises.
Et puis on a un esprit très entrepreneurial aussi chez Spag, chez Sparkling. Donc, par exemple, dans le startup studio Sparkling Partners, toutes les nouvelles créations d'entreprises qui passent, qui sortent, à un moment, passent par le SaaS Spag, soit pour réfléchir au positionnement, au marketing, tester le marché avant de lancer. on fait beaucoup, voilà, donc on a aussi ces clients internes encore sur des parties de lancement. Bon, après, il faut avoir le moyen de les payer, donc c'est vrai que nous, Mimetics, on a pu se payer SPAG, c'est ça qui manque que une année, mais ça nous a bien aidé, et voilà, et donc aujourd'hui, après, les ventes se font un peu toutes seules, parce que le jeu a une certaine notoriété, mais voilà.
Alors, c'est ça qu'il faut... Enfin, moi, je trouve ça chouette de sentir que le jeu de société rassemble et que les gens ont envie de faire ça, en ce moment. Tu vois, je trouve ça fou parce que jamais je me serais douté de ça avant de découvrir Mimetics. Enfin, le succès que tu viens de raconter, mais je trouve ça fou.
Ah ouais.
Tu vois que
ça
y est,
c'est une grosse tendance.
Ouais, c'est une tendance qui revient.
Ouais. Enfin, le Covid a beaucoup aidé aussi.
C'est ça, forcément.
Et après, nous, ça nous a bien arrangé parce que ce qu'on veut, en fait, avec ce jeu, c'est que les gens se retrouvent autour de la table.
Oui,
sans leur téléphone,
créer du lien
et surtout intergénérationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grands-parents, ils sont complètement dépassés avec le TikTok de leurs petits-enfants et puis ils n'ont pas envie de regarder une vidéo deux secondes. C'est difficile de parler. Les mamans se retrouvent à essayer de créer du lien entre toutes les générations, mais bon, on leur dit qu'elles sont un peu has-been avec leur déjeuner de famille. Et en fait, nous, on l'a testé comme ça. Au début, on pensait que la cible, ça allait être nous, nos potes, les 25, 35, 40,
en fait,
parce qu'il y a une tendance des jeux de société quand même, alors que le Covid a aidé, les gens avaient envie de jouer, etc. Mmh. Donc, on a aussi quand même surfé là-dessus. Mais en fait, au final, nous, les gens qui achètent Mimetics à fond et qui le recommandent, c'est, je dirais, des quarantenaires, cinquantenaires, des mamans voilà, qui ont vraiment envie de créer du lien dans leur famille ou leurs amis. Donc, il y en a beaucoup qui prennent ça en week-end. Maintenant,
je trouve ça génial.
Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça. C'est de faire redécouvrir la richesse de la langue française via un médium, enfin, un moyen qui est jeu. Donc, c'est pas censé être chiant. Et puis, pour les jeunes générations, je trouve que c'est quand même aussi important. On se rend compte que les générations des vingtenaires, en fait, ne connaissent pas tant les expressions, les utilisent à moitié bien. On le voit bien avec la télé-réalité, ça nous a fait bien rire quand ils mixent toutes les expressions. On est là, oh my god. On a envie de leur envoyer des mimétiques tout le temps. Donc, après, le challenge, c'est de ne pas être un jeu ringard, mais comme les gens se marrent trop en y jouant, parce que.
Non, mais le vintage est, voilà. est d'office moins ringard que certaines choses.
C'est ça.
Avant qu'on se quitte, enfin, ça m'embête parce que j'aimerais bien qu'on continue plus longtemps. Mais...
Moi aussi, j'adore cet échange.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que tu disais quelque chose sur le leadership. Je reviens là-dessus parce que je ne veux pas te lâcher avec ça. le leadership au féminin. Il existe ou il n'existe pas ? Je ne sais pas. Je n'aurai jamais la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a un leadership au féminin, un leadership au masculin ? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, alors c'est une très bonne question. Moi, j'aimerais qu'on ne se pose plus la question de si c'est un homme ou une femme.
Ouais. J'aimerais c'est pour ça que je pose la question.
Exactement. Donc, j'aimerais qu'on... Voilà. En fait, pour moi, je suis chef d'entreprise et entrepreneur. Et il n'y a pas de sujet que je sois un garçon ou une fille.
Voilà.
Et pour autant, je pense qu'on apporte...
Il
y a quand même une différence, peut-être... parce qu'on doit, on a dû aussi se battre plus. Moi, j'ai quand même l'impression de devoir donner 3 coups de pelle de plus tous les jours de pagaie si je veux avancer. Où on a aussi ce côté un peu plus. Je sais pas. En réalité, je sais pas. Je sais pas vraiment parce que j'allais dire, on a peut-être parfois un côté un peu plus humain et c'est pas vrai. Il y a des super managers masculins et des très bons chefs d'entreprise aussi. Et puis des femmes qui sont très dures. Donc en fait.
Alors j'inverse la question. Ouais. Du coup, c'est quoi les grandes qualités selon toi d'un leader ? Ou d'une leadeuse, tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
enfin, en gros, on va revenir à ça. C'est-à-dire que, il y a tout à l'heure, tu parlais de persévérance, mais je pense que c'est un truc quand même qui reste peu. C'est un peu bêta de dire ça, mais c'est vrai.
Ouais, en fait, je m'en rends compte tous les jours. Je me dis, en fait, il faut être super persévérant.
Mais autant à l'intérieur de la boîte qu'à l'extérieur.
Exactement, donc, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Plein de fois, je me dis, bon, là, ça ne sert à rien, j'abandonne. Mais non, en fait, ce qui fait qu'on restera demain et qu'on continuera à être visionnaire et à changer, c'est qu'il faut persévérer, se prendre des portes. Voilà. Alors, est-ce qu'on se prend plus de portes si on est une femme? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, beaucoup d'aide, de gens qui m'ont fait confiance, des mentors. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu des bâtons dans les roues particulièrement. En tout cas du marché ou du milieu masculin, plutôt de l'aide. Après, j'ai un peu parfois d'arrogance ou de méprise, de mépris, mais je pense que ça se dépasse. Mais sinon, je pense qu'il faut inspirer, en tout cas, il faut être assez aligné. Moi, je me rends compte maintenant que plus je suis alignée avec ce que je veux faire dans mon projet, où est-ce que je veux aller, plus mes équipes suivent et sont alignées aussi, et donc cette vision... Je pense pas qu'il faut être inspirant en faisant des trucs waouh forcément, mais juste être clair avec soi-même.
Et puis surtout être resté au contact. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, tu me dis si t'es pas d'accord, mais c'est vrai que pour moi, un bon leader, c'est celui qui sait rester sur le terrain.
Ouais, carrément.
Tu vois, qui sait aller se frotter à la réalité de vendre.
Ah ouais,
donc un leader, c'est un bon vendeur aussi, non ?
Ouais, Oui, je pense, effectivement. Enfin, en tout cas, il faut savoir ce qu'on vend, savoir si ça plaît, être proche de ses clients. Mais, enfin, après, nous, comme c'est du marketing, on a un peu l'habitude de faire ça. Mais même pour nous, je me pose constamment la question des offres, comment je parle à mes clients, pourquoi ils ne sont pas contents. Mm-mm. Je suis dans tous les retours sur expérience si jamais il y a un truc qui ne s'est pas passé. Ouais, c'est sûr qu'il faut être proche. Moi, je pense qu'il faut être très opérationnel. Après, moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est ça. Donc, je reste très opérationnel. Parfois trop, je pense. Certaines de mes équipes me disent, là, c'est bon, tu n'es peut-être pas obligé d'être au courant de ça. Bon, d'accord, ok.
Ouais, le fait de déléguer un moment, de commencer à cerner le moment où il faut que tu te dises bon bah c'est
après,
plus
je délègue de plus en plus, ça c'est clair, et je pense pas avoir trop de problèmes là-dessus, mais j'aime bien quand même savoir quoi, pour pas être loin du business quoi.
C'est quoi la suite pour toi, comment tu envisages l'avenir?
Bah, j'espère déjà continuer à faire... Enfin, j'aimerais bien que Mimetix devienne un peu un classique. Ça, c'est un peu mon dream, un classique français.
Le nouveau Monopoly, quoi.
Ouais, le Monopoly en se disant, ben, c'est un cadeau, donc on est fiers d'offrir et que les familles sont contentes d'avoir chez eux, dans leur maison de vacances ou chez eux. Et je pense que les ventes continuent de croître et donc c'est cool. On est un peu bien au-delà de ce que font les jeux de société moyens en France, donc c'est cool. Mais il ne faut pas que ça se tarisse, donc il faut continuer de convaincre d'autres cibles. Pour Spag, c'est d'en faire un succès aussi. Ce qui serait un succès, c'est... Aujourd'hui, je sais que c'est déjà un énorme tremplin pour mes équipes. Donc, je me dis qu'il y a déjà les 25 personnes qui sont passées chez Spag. Si grâce à ça, elles font des carrières qui les intéressent, elles accèdent à des niveaux de salaire intéressants, c'est trop cool. Mais pour nos clients, en fait, plus on fait de succès pour nos clients, plus c'est cool. Donc voilà, moi, je... Qu'est-ce que c'est un succès pour Spag aussi? C'est que dans 2-3 ans, on soit vraiment reconnu comme un cabinet de growth marketing en France et en Europe, parce qu'on a beaucoup de clients internationaux. Mm-hmm. J'en ai pas parlé, mais mon équipe est hyper internationale. J'ai recréé ce que j'avais vu à Londres.
Bien sûr, ouais.
Voilà. Et puis moi, après, me dire dans, je sais pas, 5-6 ans, remonter un projet, pourquoi pas, avec encore plus d'impact. Le sujet de l'éducation, d'avoir des impacts positifs, de la disparité, enfin, des disparités sociales, c'est un truc qui me titille pas mal. J'ai pas d'idée, mais je me dis à terme, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Voilà, je teste un peu avec la formation déjà, côté Spag, mais je me dis comment... En fait, moi, ce qui m'anime, c'est ça, comment on peut avoir de l'impact sur les inégalités sociales. Donc, je pense que ça sera mon prochain fer de lance. Je me dis, finalement, j'en ai monté deux. Est-ce que je peux pas monter un troisième en parallèle?
Oh, bah, si.
Je sais pas.
Moi, je pense que
pourquoi
oui,
pas.
Sais.
C'est donc, c'est pour
mamans,
ça que j'ai pas envie de dissocier.
Ouais. Comme les mamans, quand elles se disent, oh non, je suis épuisée, je fais pas le troisième.
Ouais, c'est ça.
Final, elles disent, bon, quand même, et puis elles gèrent. Hein, donc,
voilà, c'est ça. Donc, non, c'est pas très. J'ai pas de carrière plane à 5 ans ou à 10 ans, mais continuer d'aimer ce que je fais.
Tu as un conseil à donner comme ça? Enfin, je sais que ça, pareil, je tombe un peu dans le trop bêta, mais est-ce que tu as un conseil à donner à des femmes qui sont au même niveau que toi? Tiens, on va pas dire à des jeunes entrepreneurs, mais tu vois, à des femmes qui se retrouvent soit manager, tu vois, dans une entreprise ou à la tête de leur propre entreprise, mais j'ai envie de te dire un conseil d'égal à égal.
Ouais, c'est un bon point déjà, parce qu'on ne m'a jamais trop posé cette question. Et en fait, le truc qui m'est venu direct en tête quand tu viens de me demander ça, c'est de ne pas avoir peur de s'entraider entre femmes, mais pour les bonnes raisons, enfin, avec respect. Je pense que nous, entre femmes, on n'a pas trop ce sujet. Enfin, on le fait pas assez, je pense.
Je suis d'accord.
De networking féminin ou de s'aider, d'avoir des vraies relations business de personnes qu'on respecte, avec qui on a envie de travailler.
C'est ça.
Tout comme dire, le font tiens, les hommes, Estelle, de manière... j'ai trop envie de te reparler après. Ouais, viens, on se prend un café. Ouais, ouais. On peut faire des choses de business ensemble, pourquoi pas. On se respecte, on s'aime bien. J'ai l'impression que chez les femmes, on est encore un peu à se dire non, que c'est soit ma copine, soit quelqu'un avec qui je travaille, c'est un collègue. Et on peut pas avoir les deux. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, j'ai quelques copines entrepreneurs ou managers qui sont dans cette mentalité-là. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et on s'appelle, on se donne des news, à être transparent sur nos business,
toi,
sur nos galères. C'est une relation qu'aujourd'hui, j'ai trop peu avec des femmes. Je l'ai plus avec des copains entrepreneurs,
comme
mecs.
Comme moi.
Voilà. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une méfiance un peu chez les femmes. On se dit, ah non, elle va me faire un coup foireux, machin.
La solidarité homme n'est pas forcément équivalente à celle entre femmes. Enfin, il y a un historique qu'on n'a pas.
J'ai des copines qui sont super fortes dans leur milieu et qui n'ont pas ce lien de se dire allez, je fais du business. Là, non, c'est ma copine avec elle, je pars en vacances, je fais des week-ends, et qui sont mal à l'aise avec le fait de se recommander, s'aider, se faire des intros alors que ça fonctionne comme ça. Et en fait, je pense que le jour où on arrivera à faire ça entre femmes, on sera hyper puissante en fait.
Je suis totalement d'accord avec toi. Allez, dernière question avant de se quitter, un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que t'as les deux ou pas?
Sur plein de sujets, sur n'importe quoi.
Ce que tu veux. Un coup de cœur, ça peut être, un bouquin, un film,
Ah ouais, voyage, j'ai eu un coup de cœur récemment au ciné. Ouais. Et un coup de gueule, bon ça je peux trouver, je suis toujours un peu râleuse. Non, alors, je vais commencer par le coup de cœur. Je suis allée voir deux coups de cœur de cinéma qui m'ont plu ces dernières années. Étonnamment avec Gilles Lelouch dedans, je pensais pas qu'il serait sur des films comme ça, mais le film qui s'appelle, qui vient de sortir, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages,
oui,
sur la justice restaurative, si je me trompe pas. J'ai trouvé ça hyper émouvant et complètement à l'inverse de notre société aujourd'hui où faut absolument scaler, et à l'inverse de mon métier où voilà, on fait des petits groupes qui font du bien à plein de personnes. J'ai trouvé ça que c'était hyper beau. Malgré un casting, c'est un très beau casting, mais qu'on voit un peu partout en ce moment. Mm-hmm. Et j'avais bien aimé aussi un film sur les familles d'accueil qui s'appelle, punaise, je vais dire une bêtise, mais c'est pas Police, c'est pas Pépite, mais c'est quelque chose comme ça.
Récent ?
En 2018, il me semble. Pardon, je vais retrouver. En tout cas, il y a Gilles Lelouch dedans, et c'est une famille d'accueil qui accueille des enfants d'adoption. Okay. Et
je très beau. Le nom,
ça m'a presque donné envie d'être famille d'accueil, mais je me suis rendu compte que c'était un vrai métier et qu'on pouvait pas le faire en plus d'un métier normal, enfin comme une adoption. Mm-hmm. Voilà. J'ai trouvé que c'était super beau. Et si je retrouve le nom, je te le dirai pour que tu le mettes.
Mais je rechercherai aussi. Ouais,
voilà. Si on tape film famille d'accueil avec Gilles Lelouch, je pense qu'on le trouve.
D'accord. Voilà. Et coup de gueule.
Et coup de gueule.
Ça peut être générique.
Ouais, ça peut
après,
être générique,
tu peux ne pas en avoir. Je te force surtout pas à avoir un coup de gueule.
J'ai bien des coups de gueule, forcément.
Non, mais t'es pas obligé.
Un coup de gueule avec ces hommes qui ne nous laissent pas rentrer dans les cercles masculins ou qui nous prennent de haut en se disant allez, on fait un effort, c'est sympa, elle est là. Juste pour les quotas. Mais j'aimerais bien qu'on soit vraiment considérés d'égal à égal, un peu de manière naturelle, quoi.
Et tu œuvres à ça, donc je te remercie. J'espère. Coralie. Merci de cet échange, c'était passionnant.
Merci à toi.
J'aurais bien voulu le poursuivre, mais on doit toutes les deux se libérer. Un grand merci et une super continuation à toi.
Merci, toi.
Allez,
aussi.
Bye.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.